Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Delta FM 90.2, la radio du lycée pilote de Jaune-et-Clan, c'est la série Altérité et pluralité culturelle. Si je vous dis géométrie, je suppose que ça vous rappelle de mauvais souvenirs, équerre géométrique barbare et autres problèmes sanguinaires, j'entends d'ici votre cri d'horreur. Mais soyons sérieux. Pour vous aujourd'hui, les pintades vous ont déniché de très bons dossiers, et entre autres nous verrons comment la géométrie a considérablement influencé les religions du monde entier.
Altérité, pluralité culturelle. Les secondes du LP2I en parlent.
Sans attendre, une petite présentation du sommaire. Aujourd'hui en exclusivité, nous aurons le plaisir d'entendre Monsieur Go, professeur de maths au LP2I, qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions, et qui dans le même temps introduira notre débat entre science et religion. Avant ça, nous écouterons Ezer, notre critique littéraire du jour, qui nous parlera du Da Vinci Code. Mais tout de suite, je donne la parole à nos journalistes Mathilde et Lara, qui éclaireront nos lanternes à propos de l'Ouroboros et du Nombre d'Or. Nous pouvons donc commencer, les pintades sont à l'antenne. Alors Lara, parlez-nous de ce truc au nom un peu tordu, là, l'Ouroboros.
Oui, alors peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. En fait, l'Ouroboros, c'est un symbole qui représente un serpent qui se mord la queue.
Alors, un symbole de quoi exactement ?
L'Ouroboros, ce serpent un peu bizarre, représente l'immortalité. Donc on peut souvent le rencontrer en peinture, en sculpture ou en dessin. Certains adeptes de ce signe, qui sont peut-être un peu dérangés à les savoir, prétendent que c'est un des emblèmes du diable. Donc son origine diabolique a souvent été contestée parce que l'Ouroboros serait aussi la base du yin et du yang chinois. Comme quoi, vous voyez, c'est pas vraiment maléfique.
D'accord, ça me rassure. Mais est-ce qu'on sait d'où il vient ou s'il aurait certains pouvoirs ?
On ne connaît pas vraiment ses origines, mais c'est déjà arrivé de le trouver dans certains cercles de transmutation. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de la chimie.
Oui, comme changer le plomb en or.
Voilà, c'est ça.
Okay. Bien, pour clore cette information, le mot de la fin ?
Pour finir, je vous dirais qu'on ne sait pas vraiment ce dont ce symbole est capable, mais faites attention, si vous voyez de petits yeux qui brillent dans le noir, c'est peut-être lui qui vous observe.
C'était Lara, merci. On continue maintenant avec Mathilde qui va nous donner des infos sur le mystérieux nombre d'or.
Bonjour à tous. Comme l'a dit Maureen, je vais vous en dire un peu plus sur la proportion divine, pi, ou plutôt, sous un nom plus connu, le nombre d'or. Alors, pour certains, il est un peu perturbant, mais n'en reste pas moins fascinant pour ceux qui l'ont étudié de plus près. Ce qui est étrange, je dirais, chez ce nombre d'or, c'est qu'il est partout, là où on ne l'attend pas.
Vous voulez dire dans notre vie quotidienne, par exemple ?
Absolument. C'est une notion de beauté profonde et il représente d'une certaine façon l'incroyable mystère de la vie. C'est d'ailleurs dans ce cas qu'on l'appelle la proportion divine. Entre autres, il y a un exemple que nous connaissons tous qui est la Joconde.
Ouais.
En effet, on dit que notre Mona Lisa aurait ce nombre d'or inscrit sur le visage. Il y a aussi du même auteur, l'homme de Vitruve, qui, vous le savez peut-être, a été créé sur ce même principe. Mais également un autre artiste, Phidias, qui l'a également appliqué à ses nombreuses sculptures du Parthénon. Enfin, une autre chose intéressante, il paraîtrait que les personnes que nous trouvons belles auraient le nombre d'or ancré dans leurs traits de visage.
Ah oui, c'est bizarre quand même. Et contrairement à l'Ouroboros, ce nombre d'or, est-ce qu'on sait d'où il vient ?
Alors, on sait qu'il est représenté par les initiales PHI, justement en hommage à Phidias, ce sculpteur grec du 5e siècle, et qu'il aurait donc la particularité d'être sans fin, ad infinitum en latin. On le dit environ égal à 1,618. Bien sûr, la proportion divine n'est pas juste une idée de beauté. Il y a un côté mathématique là-dedans, puisque c'est l'unique solution positive de l'équation x au carré est égal à x plus 1. Beaucoup de scientifiques ont d'ailleurs fait énormément de recherches sur ce phénomène.
Très bien. Et tout à l'heure, on a parlé du nombre d'or dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Bien sûr. Par exemple, si nous prenons la disposition en spirale des graines de tournesol, les coquillages qu'on ramasse sur la plage, eh bien, tous obéissent à la loi de notre proportion divine. Et pour informer les musiciens qui peut-être nous écoutent, nous trouvons aussi ce mystérieux pi dans la musique et le rythme des sons.
Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour toutes ces informations. Après une courte pause musicale, nous écouterons Ezer avec le Da Vinci Code.
Thanks, Maureen. Right, today I'm going to talk about The Da Vinci Code by Dan Brown. I guess that everybody has heard of it at least once. It's a great book that explains in a way that anyone can understand the mysterious concepts of life. The ones that not many people get, like me for example. Religion, symbols and maths. I have to say that when you talk about maths and religion, you're not usually very interested. Trust me, I understand completely. But Dan Brown has a way of writing that makes you want to grasp these puzzles and know what happens next. His book, The Da Vinci Code, is an intriguing mix of menace, myths, maths and mysteries, full of details, twists and narrow escapes. The Da Vinci Code is a heart-racing novel that I think you will enjoy.
Thank you, Eza, for this review. À présent, afin d'introduire notre débat, écoutons Monsieur Go, prof de maths, qui a répondu à quelques-unes de nos questions.
Selon vous, quelle utilité les maths peuvent-ils avoir dans la vie quotidienne ?
Alors, les mathématiques envahissent tous les objets technologiques, du téléphone portable au CD, etc., etc. Donc, au bout du compte, on peut utiliser la technique, la technologie, sans pour autant connaître beaucoup de mathématiques. Par contre, si on veut aller plus loin et savoir effectivement comment fonctionnent ces outils, il faut avoir fait des mathématiques. D'autre part, dans la vie quotidienne, on a toujours besoin de mathématiques pour comprendre ne serait-ce les statistiques, les sondages, toutes les informations qui sont transmises, de même pour comprendre un banquier, quel taux il vous propose et pourquoi, est-ce que c'est avantageux, ou si vous voulez comparer, par exemple, des forfaits dans les téléphones portables ou autres.
Quelle serait pour vous la place des mathématiques dans la culture ?
Actuellement, qui dit culture littéraire, donc on dit de